Chapitre 7. Gilbert raconta à Marguerite l'histoire de Roland Ritson, mais il garda le silence sur ses plus grands crimes et il ne parla que très peu des amours et de la fin malheureuse de sa sœur Annette. « Implorons pour cet insensé la miséricorde de Dieu, » dit Marguerite. Et elle cacha ses larmes pour ne pas augmenter la douleur de son mari. Le vieux moine s'agenouilla à demeure près du cadavre et récita les prières des morts. Gilbert et Marguerite se réunirent à lui par intervalles. Lincoln fut chargé de creuser une fosse entre le chêne et le hêtre désigné par le misérable Ritson, et l'on attendit le retour des voyageurs de Nottingham pour procéder aux funérailles. Fatiguée d'errer devant le cottage, Marianne, abandonnée à elle-même, eut envie d'aller au-devant de son frère. Lance dormait étendu sur le seuil de la porte. Elle l'appela, le caressa de sa blanche main et partit avec lui sans avertir Gilbert. Longtemps, la jeune fille marcha, pensive et rêvante à l'avenir de son frère. Puis elle s'assit au pied d'un arbre et, la tête dans ses mains, elle se prit à pleurer. Pourquoi ? Le savait-elle ? Non. De noirs pressentiments la faisaient tressaillir et, à travers mille images confuses, elle apercevait dans un sombre lointain l'image chérie d'Alan et celle du jeune forestier, du véritable comte de Huntingdon. Lance, le fidèle animal, s'était couché à ses pieds et, le museau en l'air, braquait sur elle ses deux grands yeux ronds où flamboyait l'intelligence. On aurait dit qu'il était triste de la tristesse de cette jeune fille et qu'il éprouvait comme elle de noirs pressentiments, car il ne dormait pas, il veillait. Le soleil n'éclairait plus que la cime des grands arbres et déjà le crépuscule assombrissait le taillis lorsque Lance se redressa sur ses pattes et poussa de petits cris plaintifs en agitant la queue. Marianne, arrachée à ses rêveries par cet avertissement, se repentit d'être restée si longtemps dans la forêt. Mais les joyeuses gambades de l'animal qui saluait son lever la rassurèrent et elle reprit aussitôt le chemin du cottage en ne désespérant pas encore du prompt retour d'Alan. Lance ne marchait plus derrière Marianne comme le matin, il furetait au contraire en avant afin d'éclairer le sentier et d'instant en instant il tournait la tête pour voir si la jeune fille le suivait toujours. Quoique certaine de ne pas s'égarer en s'abandonnant à l'instinct de son guide, Marianne hâtait le pas car l'obscurité augmentait rapidement et les premières étoiles scintillaient dans le bleu du ciel. Lance s'arrêta soudain, se roidit sur ses jarrets, allongea le râble et le cou, dressa les oreilles, contracta le museau, flaira l'espace, éventa la voix et se prit à aboyer avec fureur, avec rage. Marianne, tremblante, demeura clouée à sa place et chercha à reconnaître la cause des aboiements du chien. « Il signale peut-être l'approche d'Alan, » se dit la jeune fille en écoutant attentivement. Tout était silencieux autour d'elle. Le chien lui-même cessa ses plaintes et déjà Marianne ne tremblait plus. Mais au moment où, riant de sa frayeur, la jeune fille allait reprendre sa marche, un bruit de pas précipité retentit dans un fourré voisin et les aboiements de Lance recommencèrent avec plus de furie et de rage que jamais. La crainte de tomber entre les mains d'un outlaw donna des ailes à la jeune fille et elle s'élança en courant dans le sentier. Mais bientôt, à bout de force, elle dut s'arrêter et faillit s'évanouir en entendant un homme crier d'une voix rude et impérieuse « Rappelez votre chien !» Lance, qui s'était tenu à l'arrière-garde pour protéger la fuite de Marianne, venait de sauter à la gorge de l'individu qui la poursuivait. « Rappelez votre chien !» cria de nouveau l'étranger. « Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal !»« Comment puis-je savoir que vous dites vrai ?» répondit Marianne d'un ton presque ferme. « Il y a longtemps que je vous aurais envoyé une flèche dans le cœur si j'étais un malfaiteur. Encore une fois, vous dis-je, rappelez votre chien !» Déjà, les crocs de Lance avaient déchiqueté les vêtements et entamé la peau. Au premier mot de Marianne, le chien lâcha prise et vint se poster devant elle sans perdre de vue cet inconnu qu'il continuait à menacer des dents. Cet inconnu, c'était bien un outlaw, un de ces proscrits sans feu ni lieu qui volent et pillent les forestiers moins courageux que Gilbert et assassine les voyageurs sans défense. Ce misérable, dont la face suait le crime, était vêtu d'un pourpoint et d'un haut-de-chausses en peau de chèvre. Un large feutre, souillé, malaxé, recouvrait à peine sa longue chevelure, tombant en désordre sur ses épaules. L'écume échappée de la gueule du chien blanchissait sa barbe épaisse. À son côté pendait une dague, d'une main il tenait son arc et de l'autre des flèches. Malgré son épouvante, Marianne simulait un grand sang-froid. « Ne m'approchez pas !» dit la jeune fille avec un impérieux regard. L'outlaw s'arrêta, car le chien prenait son élan pour sauter sur lui. « Que voulez-vous ? Parlez, je vous écoute !» ajouta Marianne. « Je parlerai, mais d'abord il faut que vous veniez avec moi. »« Où ? Peu vous importe l'endroit de la forêt. Suivez-moi. » « Je ne vous suivrai pas !»« Ah ah, vous refusez, belle demoiselle !» s'écria le coquin avec un éclat de rire féroce. « Vous faites la dédaigneuse, la difficile !»« Je ne vous suivrai pas !» répéta fermement Marianne. « Je serai donc obligée, alors, d'employer les grands moyens, et les grands moyens ne seront pas de votre goût, je vous en préviens. » Et moi, je vous préviens que, si vous avez l'audace d'user de violence envers moi, vous serez cruellement puni. Marianne ne tremblait plus. Le courage lui était revenu en face du danger, et elle avait prononcé ses dernières paroles d'une voix assurée, et le bras tendu vers le proscrit, comme pour lui dire « Retirez-vous ». Le proscrit se remit à rire de son rire féroce, et Lance fit en grondant craquer ses mâchoires. « Vraiment, la belle fille ?» reprit le bandit après un instant de silence. « Vraiment, j'admire votre courage et la hardiesse de vos paroles, mais cette admiration ne me fera pas modifier mes projets. Je sais qui vous êtes, je sais que vous êtes arrivé hier chez Gilbert Head, le forestier, en compagnie de votre frère Alan, et que ce matin, votre frère Alan est parti pour Nottingham. Je sais tout cela aussi bien que vous. Mais ce que je sais encore, et ce que vous ne savez pas, c'est que les portes du château de Fitzhalween, qui se sont ouvertes pour laisser entrer Messire Alan, ne se rouvriront jamais pour le laisser sortir. « Que dites-vous ? » s'écria Marianne en proie à une nouvelle terreur. « Je dis que Messire Alan Clare est prisonnier du baron de Nottingham. » « Mon Dieu ! Mon Dieu ! » murmura douloureusement la jeune fille. « Et je ne le plains pas, votre estimable frère. Pourquoi va-t-il se fourrer dans la gueule du lion ? C'est que c'est un vrai lion que le vieux Fitzhalween. Nous avons fait la guerre en Palestine et je connais ses goûts. Il veut avoir la sœur comme il a déjà le frère. Hier, vous avez échappé à ses limiers et aujourd'hui... » Marianne poussa un cri de désespoir. « Oh, rassurez-vous, je veux dire qu'aujourd'hui, vous lui échapperez encore. » Marianne osa lever les yeux sur le bandit, il y avait presque de la reconnaissance dans son regard. « Oui, vous lui échapperez encore, mais vous ne m'échapperez pas à moi. À lui le frère, à moi la sœur, et vive mon lot. Allons, pas de larmes, la belle fille. Vous qui seriez esclave chez le baron, vous serez libre avec moi, libre et reine dans ces vieux bois, et j'en connais plus d'une, brune ou blonde, qui enviera votre sort. En route donc, ma belle épousée. Là-bas, dans ma caverne, nous trouverons un bon souper de venaison et notre lit de feuilles sèches. » « Oh, je vous en conjure, parlez-moi de mon frère, de mon cher Alan !» s'écria Marianne, qui ne tenait aucun compte des absurdes propos de ce misérable. « Parle-le, reprit-il, sans remarquer l'inattention de Marianne. Si votre frère s'échappe des griffes de la bête, il viendra vivre avec nous. Mais je ne crois pas que nous puissions jamais chasser le daim de compagnie, car le vieux Fitzhalween ne laisse pas moisir ses prisonniers dans les cachots. Il les expédie promptement pour l'éternité. « Mais comment avez-vous appris que mon frère était prisonnier du baron ?»« Au diable les questions, la belle. Il s'agit maintenant des offres que je te fais d'être ma reine et non de la corde qui doit étrangler monsieur ton frère. Par Saint-Dunstan, de gré ou de force, tu vas me suivre. » Et il fit un pas vers Marianne qui se rejeta vivement en arrière en s'écriant « À lui, Lance, à lui !» Le courageux animal n'attendait que cet ordre et sauta à la gorge du proscrit. mais celui-ci, habitué sans doute à de pareilles luttes, saisit les deux pattes de devant du chien et, avec une force irrésistible, le lança à 20 pas. Le chien, sans s'effrayer, revint à la charge et, par une feinte habile, attaqua de côté au lieu d'attaquer en face, mordit dans la masse de cheveux qui s'échappait de dessous le feutre du bandit et implanta si profondément ses crocs que l'oreille tout entière se détacha et lui resta dans la gueule. Un flot de sang inonda le blessé qui s'adossa à un arbre en poussant des rugissements affreux et en blasphémant Dieu, et Lance, désappointé de n'avoir pas mis la dent sur un morceau de résistance, bondit de nouveau comme à la curée. Mais cette troisième attaque devait lui être fatale. Son adversaire, quoique épuisé par la perte de son sang, lui asséna du plat de sa dague un coup tellement violent sur le crâne qu'il roula comme une masse inerte aux pieds de Marianne. « À nous deux, maintenant !» s'écria le bandit, après avoir suivi d'un œil satisfait la chute de Lance. « À nous deux, la belle !»« Enfer et damnation » ajouta-t-il, rugissant et promenant ses regards aux alentours. « Parti, sauvé ? Ah, de par tous les diables, elle ne m'échappera pas !» Et il s'élança à la poursuite de Marianne. La pauvre fille courut longtemps sans savoir si le sentier qu'elle avait pris la conduirait au cottage de Gilbert Head. Une seule chance lui restait, après la mise hors de combat de son défenseur, la chance d'échapper à l'outlaw à la faveur de l'obscurité. Aussi fit-elle des efforts surhumains pour gagner promptement le plus de terrain possible. La Providence veillerait ensuite sur elle. Hors d'haleine, Marianne s'arrêta enfin dans une clairière où aboutissaient diverses routes et respira plus librement en n'entendant aucun bruit de pas derrière elle. Mais là, nouvelle angoisse. Quelle route fallait-il prendre? Son hésitation ne pouvait durer. Elle devait choisir, et choisir bien vite, sinon le limier lancé sur ses traces allait paraître. L'infortunée invoqua le secours de la Sainte Vierge, ferma les yeux, fit 2 ou 3 tours sur elle-même et indiqua en étendant le bras au hasard le sentier qu'elle allait suivre. À peine avait-elle quitté la clairière que l'outlaw y arrivait et hésitait aussi sur le choix du chemin pour attraper la fugitive. Malheureusement, la lune, cette lune qui, à la même heure, éclairait l'évasion de Robin, éclaira la fuite de Marianne. Sa robe blanche la trahit. « Enfin !» s'écria le bandit. « Je la tiens !» Marianne entendit ces horribles paroles « Je la tiens !» et plus agile qu'un daim, plus rapide qu'une flèche, elle vola, vola, vola. Mais bientôt, épuisée, défaillante et n'ayant plus que la force de crier pour la dernière fois « Alan ! Alan ! Robin ! Au secours ! Au secours !» elle tomba et s'évanouit. Guidée par cette robe blanche, l'outlaw avait redoublé de vitesse et déjà il se courbait et allongeait le bras pour enserrer sa proie, quand un homme, un garde qui se trouvait par là en embuscade pour veiller à la conservation du gibier royal, intervint en disant « Hola, misérable coquin, ne touche pas à cette femme ou tu es mort !» Le bandit n'eut pas l'air d'entendre et glissa ses mains sous les épaules de la jeune fille pour la soulever de terre. « Ah, tu fais la sourde oreille !» reprit le forestier d'une voix tonnante. « Soit !» Et il bâtonna rudement le proscrit avec le manche de sa pique. « Mais cette femme m'appartient !» dit l'outlaw en se levant. « Tu mens ! Tu la poursuivais comme un ours poursuit un faon. Misérable coquin ! Arrière ou je t'embroche !» Le bandit recula, car le fer de la pique du forestier entamait déjà son haut de chausse. « À bas les flèches, à bas l'arc, à bas la dague !» ajouta le forestier, la pique toujours en arrêt. Le bandit jeta ses armes à terre. « Fort bien, maintenant, volte-face et file, file rondement, lestement, sinon je t'éperonne à coups de flèche !» Il fallait obéir. Plus d'armes, plus de résistance possible. Le bandit s'éloigna donc en vomissant des torrents de blasphèmes et de malédictions et jurant de se venger tôt ou tard. Le forestier s'occupa aussitôt de rappeler à la vie la pauvre Marianne, qui gisait, immobile sur l'herbe, comme une blanche statue de marbre renversée de son piédestal. La lune éclairant son pâle visage aidait encore à l'illusion. Non loin de là serpentait un ruisseau, la jeune fille fut transportée au bord. Quelques gouttes d'eau, subitement projetées sur ses tempes et sur son front, la ranimèrent, et, ouvrant les yeux, comme si elle sortait d'un long sommeil, elle s'écria « Où suis-je ?»« Dans la forêt de Sherwood, » répondit naïvement le garde forestier. Au son de cette voix qui lui était étrangère, Marianne voulut se relever et fuir encore. Mais les forces lui manquèrent et elle s'écria d'une voix plaintive et les mains jointes « Ne me faites pas de mal, ayez pitié de moi !»« Rassurez-vous, mademoiselle, le misérable qui a osé vous attaquer est loin de nous et voudrait-il recommencer qu'il aurait affaire à moi avant de toucher un pli de votre robe ?» Marianne, toujours tremblante, jetait des regards effarés autour d'elle, et cependant, la voix qu'elle entendait résonner à son oreille lui paraissait être une voix amie. « Voulez-vous, mademoiselle, que je vous conduise à notre hall ? Vous y recevrez bon accueil, je vous le jure. Au hall, vous trouverez des jeunes filles pour vous servir et pour vous consoler, des garçons forts et vigoureux pour vous défendre, et un vieillard pour vous servir de père. Venez au hall, venez !» Il y avait tant de cordialité et de franchise dans ses offres que Marianne se leva instinctivement et suivit sans mot dire l'honnête forestier. Le grand air et le mouvement lui rendirent bientôt l'intelligence et le sang-froid. Elle considéra attentivement au quartier de la lune la tournure de son guide et, comme si un secret pressentiment l'avertissait que cet inconnu était un ami de Gilbert Head, elle dit « Où allons-nous, messire? Ce chemin conduit-il à la maison de Gilbert Head ?»« Quoi? Vous connaissez Gilbert Head? Seriez-vous sa fille, par hasard ?»« Vraiment, je gronderai le vieux sournois pour le silence qu'il a gardé sur la possession de nos si jolis trésors. »« Pardon, miss, sans vous offenser, c'est que, voyez-vous, il y a longtemps que je connais le bonhomme Head et son fils Robin Hood, et je ne les croyais pas si discrets. » « Vous êtes dans l'erreur, messire. Je ne suis point la fille de Gilbert, mais son amie, son hôte depuis hier. » Et, racontant tout ce qui lui était arrivé depuis son départ de la maison du forestier, Marianne termina son récit par un compliment plein d'effusion à l'adresse de son sauveur. Ce compliment n'était pas achevé que le forestier l'interrompit en rougissant. « Il ne faut pas penser à rentrer ce soir chez Gilbert. » Sa demeure est trop éloignée d'ici. Mais le hall de mon oncle est à deux pas. Vous y serez en sûreté, miss, et de peur que vos hôtes ne s'inquiètent, j'irai leur porter de vos nouvelles. Merci mille fois, messire. J'accepte vos offres, car je tombe de fatigue. Pas de remerciements, miss. Je ne fais que mon devoir. Marianne, en effet, tombait de fatigue et chancelait à chaque pas. Le forestier s'en aperçut et lui offrit son bras, mais comme la jeune fille était plongée dans ses réflexions, elle ne l'entendit pas et continua de marcher isolée. « Miss, est-ce que vous manqueriez de confiance en moi ?» demanda le jeune homme avec tristesse et en réitérant son offre. « Craindriez-vous donc de vous appuyer sur ce bras qui... »« J'ai pleine confiance en vous, messire, » répondit Marianne en prenant aussitôt le bras de son compagnon. « Vous êtes incapable, n'est-ce pas, de tromper une femme ?»« C'est comme vous le dites, miss, j'en suis incapable. Oui, Petit Jean en est incapable. Allons, appuyez-vous ferme sur le bras de Petit Jean, qui vous porterait tout entière s'il le fallait, miss, et sans plus fatiguer que ne fatigue la branche d'arbre qui porte une tourterelle. »« Petit Jean, Petit Jean !» murmura la jeune fille, étonnée et levant la tête pour mesurer du regard la taille colossale de son cavalier. « Petit Jean ?»« Oui, Petit Jean, ainsi nommé, parce qu'il a 6 pieds 6 pouces de haut, parce que ses épaules sont larges en proportion, parce que d'un coup prompt il assomme un bœuf, parce que ses jambes fournissent une traite de 40 000 Anglais sans s'arrêter, parce qu'il n'y a ni valseur, ni coureur, ni lutteur, ni chasseur qui puisse lui faire crier merci, parce que, enfin, ses 6 cousins, ses compagnons, les fils de Sir Guy de Gamwell, sont tous plus petits que lui. Voilà pourquoi, miss, celui qui a l'honneur de vous prêter l'appui de son bras est appelé Petit Jean par tous ceux qui le connaissent. Et le bandit qui vous a attaqué me connaît bien, lui, car il s'est gardé de faire le méchant quand la Sainte Vierge qui vous protège a permis que je vous rencontrasse. Permettez-moi, miss, d'ajouter que je suis aussi bon que robuste, que mon nom de famille est John Baylow, neveu de Sir Guy Gamwell, que je suis forestier de naissance, archer par goût, garde-chasse par état, et que j'ai 24 ans depuis un mois. » Ainsi, causant et riant, Marianne et son compagnon s'acheminaient vers le hall de Gamwell. Ils atteignirent bientôt la lisière de la forêt, et là, un spectacle magnifique se déroula devant eux. La jeune fille, malgré sa lassitude et son épuisement, ne pouvait se lasser d'admirer ce merveilleux paysage. Sur une étendue de terrain de plusieurs milles, qu'encadraient des bordures de forêt d'un vert sombre, miroitaient les sites les plus enchanteurs, les plus accidentés, les plus capricieusement dissemblables. Ça et là, sur les lisières des bois, sur les collines, dans le creux des vallons, de blanches maisonnettes jouaient aux fantômes, les unes mystérieusement isolées, les autres fraternellement groupées autour de l'église, d'où le vent emportait les derniers tintements du couvre-feu. Là-bas, à droite du village et de l'église, voyez-vous, dit Petit-Jean à sa compagne, ce vaste bâtiment, dont les fenêtres à moitié closes laissent s'échapper de vives clartés, le voyez-vous, miss? Eh bien, c'est le hall de Gamwell, la demeure de mon oncle. Dans tout le comté, on ne trouverait pas de logis plus confortable, ni dans toute l'Angleterre, un coin de pays plus enchanteur. Qu'en dites-vous, miss? Marianne approuva par un sourire l'enthousiasme du neveu de Sir Guy de Gamwell. « Hâtons le pas, miss, reprit celui-ci, la rosée de la nuit est abondante, et je ne voudrais pas vous voir trembler de froid quand vous avez cessé de trembler de peur. » Bientôt, une meute de chiens de garde en liberté accueillirent bruyamment Petit-Jean et sa compagne. Le jeune homme modéra leur transport avec de rudes paroles d'amitié et quelques légers coups de bâton à l'adresse des plus turbulents, et après avoir traversé des groupes de serviteurs étonnés qui le saluèrent respectueusement, il pénétra dans la grande salle du hall au moment où toute la famille allait s'asseoir à table pour le repas du soir. « Mon bon oncle !» s'écria le jeune homme en conduisant Marianne par la main devant un fauteuil où trônait le vénérable Sir Guy de Gamwell. « Je vous demande l'hospitalité pour cette belle et noble demoiselle. Grâce à la Providence, dont je n'ai été que l'indigne instrument, elle vient d'échapper aux fureurs d'un infâme outlaw. » Marianne, fuyant dans la forêt, avait perdu le bandeau de velours qui d'ordinaire retenait ses longs cheveux, et, afin de se garantir du froid, elle avait accepté le plaid de Petit-Jean, qui couvrait encore sa tête et s'entrecroisait sur sa poitrine, en ne laissant voir son doux visage que par un ovale très étroit. Gênée par la draperie de cette coiffure, ou honteuse peut-être de se servir devant tous d'un objet faisant partie de la toilette d'un homme, Marianne se débarrassa vivement du plaid et apparut au regard de la famille de Gamwell dans toute la splendeur de sa beauté. Les six cousins de Petit-Jean admiraient Marianne bouche béante, tandis que les deux filles de Sir Guy s'élançaient avec un empressement plein de grâce au-devant de la voyageuse. « Bravo !» disait le patriarche du hall. « Bravo, Petit-Jean, tu nous raconteras comment tu t'y es pris pour ne pas effaroucher cette jeune fille en l'accostant en pleine nuit au milieu de la forêt, et comment tu lui as inspiré assez de confiance pour qu'elle se décidât à te suivre sans te connaître et à nous faire l'honneur de venir se reposer sous notre toit. Noble et belle demoiselle, vous me paraissez souffrante et fatiguée. Ça, prenez place ici, entre ma femme et moi. Un doigt de vin généreux ranimera vos forces, et mes filles vous conduiront ensuite dans un bon lit. » On attendit que Marianne se fût retirée dans sa chambre pour demander à Petit-Jean un récit détaillé des aventures de la soirée, et Petit-Jean termina sa narration en annonçant qu'il allait se mettre en route pour le cottage de Gilberhead. « Eh bien, s'écria William, le plus jeune des six Gamwell, puisque cette demoiselle est une amie du brave Gilbert et de Robin, mon camarade, je veux vous accompagner, cousin Petit-Jean. » « Pas ce soir, Will, dit le vieux baronnet, et Robin sera couché avant que vous n'ayez traversé la forêt. Vous irez lui rendre visite demain, mon garçon. » « Mais, mon bon père, reprit William, Gilbert doit être très inquiet sur le sort de cette demoiselle, et je gagerai qu'à cette heure, Robin est à sa recherche. » « Tu as raison, mon fils, agis comme tu l'entendras, je te laisse libre. » Petit-Jean et Will quittèrent aussitôt la table et prirent le chemin de la forêt.